Into the pit.
Into the pit.
Into the pit.
Into the pit. Pour un plongeon dans l'univers du métal et de la musique alternative. Sur Radio G 101.5 FM. Into the pit.
Bonsoir et bienvenue
dans Into the pit.
Il est 21h. Nous sommes le 9 mars. Pendant une heure, on plonge dans le métal et les musiques alternatives. Montez le son et bienvenue dans la fosse. C'est vraiment du n'importe quoi. Dernière fois, ça coupe, il y a un bonsoir qui pop de nulle part. Non, mais heureusement qu'on se dit pas professionnel quand même. Vous m'entendez?
Je crois que.
Ouais, ok.
Oh, je t'entends bien.
Un peu trop d'ailleurs.
Vous allez bien?
13e émission, apparemment, si je me trompe pas.
12 ou 13e?
13e, je crois.
C'est la 13e.
Ah, c'est la 13e? Ouais. Ok.
Ok, bon, on y va, on est parti pour une heure ensemble.
Pas de temps à perdre.
Non, pas trop.
Je suis fatigué. À chaque fois, on se dit avant, il faut se remotiver, il faut parler plus fort, il faut montrer qu'on est joyeux. Et là, on est
moi,
du genre.
Joyeux.
Ouais. Ah ouais, c'est super, j'aime bien. On y va ou pas?
Allez.
C'est parti.
Alors, petite, on va commencer par une découverte classique, je ne sais pas trop, Ziggy?
Eh bien, peut-être que vous les avez découverts au festival Muscadès de l'édition précédente à Valais, pas très loin de chez nous, mais pour ma part, je ne connaissais absolument pas Sauce of Hell, et j'ai écouté l'album en entier aujourd'hui, et une chose est sûre, j'y reviendrai avec plaisir.
Trop bien.
Alors, Sauce of Hell, et non Sauce of Heaven, comme le nom d'un de mes albums préférés de Slayer, ont vu le jour dans les années 2000 et ont été formés par trois amis d'enfance fans de métal. Le groupe est actif depuis pas mal d'années, mais n'a sorti qu'une seule démo en 2006. Et alors, je ne sais pas si c'est vraiment un EP ou un album court, qui s'appelle Rising of Hate en 2015. En tout cas, avec Elfernum, ils ont sorti leur premier disque, on va dire LP, leur premier album à longue durée.
Ok.
Et depuis leur retour aux affaires, ils ont intégré trois nouveaux membres, dont Pierrot, un très jeune batteur né bien après le groupe. C'est ça que je trouve amusant. Et durant ces 11 morceaux, on entend du death metal old school et une touche de thrash et de black metal. Et le point fort que nous avons est une certaine diversité, ce qui peut parfois manquer dans ce style, je trouve. J'étais absolument happé par le morceau éponyme de l'album qui dure 8 minutes, et je vous rassure, je ne vais pas le passer à la radio parce que ça va être beaucoup trop long, mais je vous invite vraiment à l'écouter. Et durant ce morceau, je me suis imaginé devant un mosh pit à regarder les gens danser comme des brutes.
Okay.
Et j'avoue l'avoir fait avec assez souvent au Wefest, et je trouve ça fascinant d'être juste devant et de voir les gens là, danser comme des sauvages. Bon allez, je peux pas m'en empêcher, donc je vous laisse quand même imaginer un petit peu avec ce son. Voilà, la poussière qui s'envole, les gens qui se poussent avec énergie, et ça c'est que l'intro de la musique. Alors un point sur la production que je trouve vraiment bonne, je trouve moderne et sans trop sonner digital. Le groupe a fait déjà pas mal de dates et de festivals et s'apprête à défendre le plus que possible ce nouvel album. Et rien que de savoir que c'est leur premier album après tant d'années, je trouve ça fou et c'est une belle preuve de persévérance et voilà, c'est beau tout simplement. Alors je vous laisse à présent avec le morceau Voice of War de Sauce of Hell. Bonne écoute. I just passed to blood.
Un petit peu quand
carrément,
même,
ouais.
N'est-ce pas
hein. C'était South of Hell et le morceau Voice of War.
C'était bien lourd, une grosse ambiance bien lourde sur les studios. C'est plutôt, moi c'est, comme je dis en vieillissant, c'est pas trop mon truc. Mais à écouter comme ça, franchement, ça change en plus à la radio.
Bah, c'est ouais. Bien old school.
Je pense que là, t'as dû réveiller Angers comme il se doit. Quoi.
Ouais, j'espère quand même.
J'espère que on les verra bientôt parce que c'est un peu compliqué de vu qu'ils sont de Chambéry. Je sais pas s'ils viennent dans la région, mais je crois.
Oui, il faudra leur envoyer un message.
Carrément. T'as envoyé un message?
Oui.
Ah, trop bien. Génial. Super.
Alors et toi, Laetitia, du coup, qu'est-ce que t'as à nous faire écouter?
Eh ben moi, je vais faire d'abord une dédicace à Arnaud Poupou qui était avec nous il y a 15 jours et en fait, il nous a fait découvrir un groupe assez phénoménal. Ça s'appelle Knucklehead, en français c'est Tête de Mule. C'est un duo musical français qui est composé de Chuck Groves et Jock Alva.
Et waouh, ouais. Regardez vraiment à quoi ils ressemblent. C'est dommage qu'on n'ait plus la musique parce que là je suis complètement tombé amoureux du visuel, de leur style, de leur du groupe tout simplement. Fou.
Du coup, c'est un mélange très réussi entre blues, rock, country, sound, sombre. 1, 2, 3, sombre, j'ai du mal. Et en fait, je trouve que c'est un genre de chaînon manquant entre ce que toi, Alex, tu adores en country et ce que Ziggy, toi, tu aimes dans le stoner.
Ah ouais ?
Du coup, j'ai trouvé un groupe en fait, qui renforce encore plus votre belle amitié, les gars.
Voilà. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça ? Je pense que du moment qu'on a regardé le Brokeback Mountain, on ne peut pas être au plus haut summum de l'alliication, je sais pas, j'avais perdu le mot d'être notre liaison, je sais pas, ouais.
Votre bromance.
Bromance, ouais.
Donc, la musique de Knucklehead, c'est aussi country que dark et que psychédélique. Elle nous envoie directement, non pas en Alsace, la terre d'origine des deux musiciens, mais en Amérique. Et pas n'importe quelle Amérique, celle des westerns suants, sales et poussiéreux. Mais avec le son de Knucklehead, les cowboys, attention Alex, ils sont gothiques, mystérieux. Sombre, sexy et vêtu de noir. Ouais, Alex.
Ouais, il va falloir que je me calme.
Donc sur scène, on n'a pas eu la chance de les voir débarquer par chez nous, mais ils ont fait un passage très remarqué sur la scène 360 du Hellfest. Hein, et a priori, ils sont à l'image de leur musique. Classe, sale, roots et sexy. Donc je vous laisse découvrir The Right Way de Knucklehead sur Radio G 101.5 FM.
Yeah.
C'était The Right Way de Knucklehead sur Radio G. J'espère que vous avez autant aimé que moi. Enfin, en vrai.
Bah, on avait découvert ensemble. On commence, ça fait un moment, un petit moment. Enfin, ça fait deux semaines que j'en écoute pas mal.
Je suis trop surpris parce que fan. Je m'attendais pas du tout à un groupe français qui puisse faire ça.
C'est bien, c'est le côté vraiment très sudiste. Comme je disais, moi, c'est placé à penser à Black. Merci, je suis pas encore sénile. Merci, Laetitia. Blackstone Cherry ou alors encore à Black Keys. Un peu, petit peu, enfin, sur des côtés très sud, très 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 rock sudiste, quoi, que j'aime
j'adore
beaucoup.
J'adore sa voix. En tout cas, il a une voix bien en route.
Ouais, c'est très très sympa. Et j'aime bien l'univers aussi.
C'est pas juste sympa, c'est juste extraordinaire, vraiment. Enfin, c'est toujours un énorme coup de cœur, quoi. C'est complètement fou. Il y a un univers total quand tu les écoutes, quoi. Enfin, c'est autant visuel que à écouter, c'est complètement fou.
Et j'imagine même pas la scène 360 là où Hellfest. Enfin, pour ceux qui connaissent. Pour expliquer, du coup, c'est une scène où c'est implanté au centre et on est autour et on peut voir tous les musiciens jouer.
C'est très industrie, la façon d'être fait, très industriel. Ça fait très film, encore une fois, des années 2000, où c'est entouré dans une cage, quoi, vraiment complètement une cage, où il fait très très chaud à l'intérieur, d'ailleurs. Et c'est complètement lunaire et je gros regret de ne pas avoir fouillé assez pour me rendre compte que j'ai loupé cette petite pépite, quoi.
Ah, il y avait des bons groupes, hein, Witchfinder aussi que j'aime beaucoup. Je les ai vus là-bas et c'était vraiment une expérience de les voir.
Tu te rends compte qu'au Hellfest, en fait, les petits groupes sur la Hellstage ou sur cette scène-là, en fait, c'est pas une punition, quoi.
Ouais,
c'est-à-dire que il y a une très bonne programmation et c'est un tremplin aussi, je pense, parce que beaucoup de groupes qui sont passés sur la Hellstage ont fini aussi pour passer sur d'autres.
Ouais, ils ont été propulsés.
Sur d'autres stages les années d'après. Aussi, c'est des tests pour se rendre compte à est-ce que ça marche, est-ce que ça plaît. Et c'est comme rechercher de la musique. En fin de compte, c'est ne pas s'arrêter aux majors et aux très gros groupes. Fouiller, regarder, écouter, essayer parfois aussi. Je veux dire, c'est pas mon truc et pourquoi pas aller voir et tomber sur des grosses surprises. Donc, ça fait du bien et je trouve que c'est une très 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 bonne idée. Et c'est vrai qu'au Hellfest, il se passe tellement de choses que c'est compliqué de se focaliser et forcément on loupe certaines choses. Et je pense que c'est peut-être ça aussi l'excitation de temps en temps de dire et merde, j'ai loupé ce groupe-là. Il va falloir que je fasse attention, être en alerte et pourquoi pas être encore se dire du coup ce groupe-là, il va falloir que je le top encore ailleurs, quoi.
Là, il n'y a pas de concert de prévu prochainement dans notre région, mais ça peut être cool, ouais. J'avais pu échanger un peu avec eux, et voilà, il n'y a pas de truc prévu pour l'instant. Et toi, Alex, c'est quoi ta découverte ?
Alors, j'ai reçu ça par mail il n'y a pas si longtemps, c'est un gros coup de cœur dans le monde du métal moderne, c'est les Suédois de Self Deception, qui viennent de lâcher leur nouveau single ultra puissant, pardon, The Wedding. C'est le premier extrait de leur 7e album studio One of Us qui sortira le 15 mai 2026 chez une toute petite maison que vous connaissez peut-être pas qui s'appelle Napalm Records. Et c'est leur premier en plus sur ce label mythique. On peut dire mythique, hein, je pense, hein, vraiment, non? Nuclear Blast. On peut parler de Napalm Records, on peut, voilà, enfin.
Je connais pas trop encore tous ces. J'avoue, j'arrive pas à reconnaître les groupes qui appartiennent à tel.
Sur YouTube, tu suis, t'es sûr de trouver, comme on dit, des sacrés bangers, quoi. Vraiment, pour le coup. Et puis, je crois que, je sais plus, Nuclear Blast, ils ont un stand au Hellfest. Avec des t-shirts et des vinyles, plein de choses, des animations.
Ouais, avec les vinyles, ça c'est sûr.
Et de toute façon, en vrai, c'est vrai que dans le métal, il y en a plein, mais il y a des très grosses majors. Et donc, dont Napalm Records en fait partie. Imagine un hymne rock moderne, super énergique, avec des riffs qui écrasent, des rythmes groovy et dynamiques, des voix claires qui claquent et des screams bien agressifs. Mais l'histoire est sombre et tordue. Un couple qui, en secret, rêve de s'entretuer. Le tout écrit le soir même du vrai mariage du batteur Eric Ingels, j'espère ne pas le dire à peu près correctement, Graham, pendant une session d'écriture en Espagne. Comme dit le chanteur Andreas Clark, on a transformé une journée de rêve en dystopie noire. Moi, l'histoire en elle-même me plaît beaucoup. Je trouve ça tellement stylé. Mmh. Le clip est dispo donc de The Wedding sur YouTube et il envoie du lourd. Self Deception, c'est la fusion explosive du métal moderne et rock mélodif depuis 2009. Ils ont tourné, écoutez bien, avec Electric Callboy, Denko Jones, Adept et leur tube Fight Fire with Gasoline a dépassé des dizaines de millions de streams. One of Us est un album taillé pour la scène et le pit. 11 titres inspirés par la vie en tournée, l'énergie des concerts, le sentiment d'appartenance et la lutte contre l'exclusion. C'est ce qu'on retrouve assez souvent quand on parle un peu de ce que les messages que veulent passer les groupes, l'exclusion, on fait souvent partie. C'est des vrai. Bombes comme le titre éponyme One of Us, en mode hardcore implacable, Time is Up, avec son refrain imparable et l'émouvant Don't Belong sur la dépendance. Break plein d'électro et de cœur à reprendre en live et la clôture massive Goddamn Me. La pochette est signée, attention par qui ? Par Alex Tilbrook, le mec derrière Stranger Things, Metallica, Blink 182 et Sleep Token.
Pff, ouais.
Fou. Il y a un petit côté, vous allez voir, faut regarder, parce qu'il y a juste la sortie qu'on on parle il n'y a pas longtemps de Gorillaz. Donc,
oui, c'est vrai qu'on a parlé
tout à l'heure. Le lien peut faire un petit peu sur les deux, faut regarder. Et franchement, si ça vous donne déjà pas envie de headbanger en costard de mariage dystopique, alors écoutez-moi ça tout de suite. Voilà The Wedding de Self Deception, le nouveau single qui va vous faire exploser les enceintes. Allez, on balance le morceau.
We'll be right back.
Alors du coup, le morceau, je pensais qu'il se terminait avant, mais il y a toujours des secondes, mais non. Ouais, en fait, il est terminé. Ils nous font une blague.
C'est bien, on parlait de VNB Fest et de la programmation, donc on reste quand même dans le thème. En tout cas, voilà, ça bouge, ça groove, c'est vraiment trop cool. C'était The Wedding de Self Deception. Et je crois vraiment que cette petite histoire en plus d'écrire sur un couple qui veut s'entretuer le jour même d'un mariage du batteur.
C'est un message?
C'est non, parce qu'il n'est pas encore venu, notre mariage, mais... c'est trop bien, cool. Oui, alors celui en Écosse, ok, mais celui avec les papiers, je fais des petites guillemets, qui arrivera en France bientôt, comme si c'était une grosse sortie. Non, bon, désolé, on raconte un peu notre vie. Mais voilà, je trouve, là, je sais pas pour vous, mais les trois premiers titres, je trouve qu'on commence hyper bien. Moi, ça me met dans l'ambiance, ça me donne envie.
C'est hyper énergique.
De bouger, etc. Ouais, bah, c'est cool.
Oui, on a fait un démarrage quand même un peu pas mal du tout. Et dans trois univers complètement différents. Et donc, je nous auto-congratule parce que on a réussi à partir dans des domaines différents, mais assez complémentaires.
Et puis, on revient quand même sur du métal. Et c'est bien. Non, c'est cool.
Ça
fait plaisir, ça fait du bien. Et j'ai l'impression de faire une émission que j'aimerais aussi écouter. Donc, voilà. Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire. Donc, je voudrais remercier aussi à Clément, à Julien, à Anaïs, à toutes ces personnes qui nous envoient.
Patricia.
Qui nous envoient des nouveautés. Et quelles nouveautés? La clonosphère aussi, plein de belles choses. Et merci quand même à Ça dégouline dans le cornet qui nous ont mis un peu les premiers pieds dedans à nous.
Les pieds à l'étrillon, vas-y. Ouais,
donc c'est cool. Et j'ai hâte encore de découvrir pour le reste, en tout cas. C'est vraiment trop, trop bien.
Carrément.
Deuxième partie de l'émission.
Mais oui,
je voulais juste en revenir à la Self Deception. Je trouve que c'est carrément plus dynamique que Président, par exemple, parce que pour moi, c'est un peu le même style. Et ils mettent une bonne claque à ce groupe.
Ouais, moi, je trouve qu'il y a un côté un peu plus. Alors, pas fun, je sais pas comment
groove,
expliquer ça.
C'est le groove.
C'est
le
groove, c'est ça, exactement.
C'est,
bah, du coup, ouais,
ouais.
Par rapport à Président, qui est quand même assez chirurgical.
Président, c'est attendu presque. C'est la continuité de ce
Après,
qui se passe.
Après, je dis pas que j'aime pas. Hein.
Non. Mais puis. Et puis ouais, de toute façon, c'est quand même un peu assez différent. Et puis on se rend compte, notre cam, elle est plus là en tout cas, quoi.
Bah carrément, ah ouais. Elle est plus là qu'elle. Oui, carrément.
On passe sur la deuxième partie, Ziggy.
Le père Ziggy.
Et oui, c'est tout nouveau. Alors j'ai pas encore le générique, mais du coup ça s'appelle Ziggy, raconte-nous une histoire.
Mais oui, Ziggy, raconte-nous une histoire.
Et ben j'ai une très belle histoire à vous raconter.
Oh oui.
Oui, Ziggy.
Oui.
Et du calme, en tout cas.
Oh bah non, vite.
Je vais vous raconter mon histoire préférée, celle de l'inventeur du riff lourd et lugubre, Tony Iommi, le sorcier électrique. Est-ce une chronique pour avoir une excuse et parler de Black Sabbath? Eh bien oui, mais pas seulement.
Ça sonne bien dans l'oreille droite, là, c'est...
Black Sabbath est l'un des plus solides piliers de l'édifice hard rock heavy metal. Je vais pas vous les présenter, tout le monde les connaît. Et si je vous dis que deux doigts ont suffi pour changer le visage de la musique lourde, voire à inventer un son.
Twix, non, pardon.
Alors je te rassure, Alex, je vais pas passer un morceau de doigts de métal de vous savez qui.
moi je parle de Twix. Donc...
album fondateur dans son genre, je vais vous raconter la création de l'album Master of Reality. Et ce qu'il a pu changer après. Mais à qui appartient cette toux? C'est la toux de Tony Iommi qui nous accueille avant que ne déboule le riff qui allait s'avérer révolutionnaire, celui de Sweetleaf, le morceau qu'on entend. Cet homme est tout simplement une légende et ce n'est pas moi qui le dis. Brian May de Queen le considère comme le véritable père du heavy metal. Eddie Van Halen a déclaré que sans Tony, le heavy metal n'existerait pas. Et James Hetfield de Metallica l'a défini comme le roi du riff lourd. Mais avant d'en arriver là, notre cher Tony Iommi avait un parcours unique. À 17 ans, il manque de passer à côté de sa carrière de guitariste. Alors qu'il travaillait à l'usine en tant qu'ouvrier métallurgiste, une presse hydraulique sectionne l'extrémité de deux de ses doigts, le majeur et l'annulaire, de la main droite. Les médecins considèrent alors qu'il ne saura plus se servir de ses doigts pour jouer. Étant gaucher, c'est sa main droite qui fait les accords, et donc la main gauche qui gratte les cordes de la guitare. Alors qu'il pense devoir renoncer à une carrière de guitariste, le directeur de l'usine lui parle d'un certain, peut-être que vous, bah oui, vous le connaissez, c'est sûr, d'un certain Django Reinhardt.
Ah.
Bien sûr, un des rois de la musique manouche quand même.
Trop bien.
Et oui, c'est, ils ont un point commun parce que lui aussi a perdu l'usage de deux de ses doigts.
Oui, c'est vrai, durant un incendie si je ne me trompe pas.
Ah, d'accord, ça je ne savais pas. En tout cas, cela redonne de l'espoir à Tony qui tente de reprendre la guitare. Il essaye d'abord de jouer uniquement avec deux doigts, mais abandonne rapidement pour recommencer à jouer avec tous ses doigts. L'exercice s'avère douloureux.
Tu m'étonnes.
Ouais. Une nuit, il fait fondre le plastique d'une bouteille de liquide vaisselle et façonne une boule pour former un embout en forme de dé à coudre. Grâce à ses prothèses maison, il va développer un style de jeu et un son unique. Et comme il ne peut plus appuyer les cordes de sa guitare sur le manche aussi fort qu'auparavant, il les remplace par les cordes de banjo qui sont beaucoup plus fines et diminue également leur tension. Ça veut dire qu'il joue du coup un demi-ton plus bas, ce qui donnera un son, c'est-à-dire le son Black Sabbath que tout le monde connaît, avec une ambiance beaucoup plus lourde.
Et il faut savoir qu'il fait plein de choses en même temps, il est en train de lire son téléphone et de l'autre côté il est en train de danser.
Tu veux que je tienne?
Non, c'est bon. Voilà, aucun groupe ne lui ressemblait alors. Personne n'arrivait à sonner aussi grave, ni même à approcher ce son gras. Voilà une histoire qui finit bien, celle de Tony, de ses deux doigts sectionnés et de toutes les belles choses qui ont influencé plein de groupes encore aujourd'hui, notamment de la scène Doom. Alors, petite surprise, je ne vais pas vous faire passer du Black Sabbath, mais plutôt un groupe fortement influencé par eux. Et pour preuve, le nom du groupe provient de deux chansons de Black Sabbath, à savoir Electric Funeral et The Wizard. Je vous laisse avec cet orage de guitare et le morceau A Chosen Few de Electric Wizard. Let's just go now, right. Bon, malheureusement, je peux pas tout mettre parce qu'il dure quand même assez longtemps, le morceau.
Ça part en psyché, c'est ça que tu
veux? Ouais, c'est tellement bon, là, ce mélange de doom et de psychédélisme bien sombre. Ah, moi, ça me fait frissonner.
Moi, je suis moins réceptive, en fait, à ces univers-là. Après, j'avoue quand même que les gros riffs de guitare comme ça, c'est hyper planant.
Surtout au casque, ça t'écrase.
C'est pas mon truc, mais là, j'avoue, pour le coup, ça aurait pu continuer. On n'a pas forcément le temps pour l'instant, mais
après, j'aurais
écouté avec grand plaisir, ouais, carrément. Et puis, encore une fois, là, tu racontes une histoire, tu vois, avec le mec, au lieu de se dire, mais j'arrête parce que c'est trop fatigant, c'est trop dur. Même le groupe aurait pu dire désolé, ce qui peut arriver facilement aussi dans l'industrie. Non, le mec, il va faire mettre des prothèses avec un bout de bouteille en plastique et ensuite ça rajoute des cordes de banjo et puis ça les détend un peu pour être. Enfin, c'est du génie parce qu'en plus, ce qui est du bricolage devient une marque de fabrique qui est connue à travers le monde et qui fait partie des plus grandes légendes du milieu du métal. Donc,
j'ai envie
de dire bravo, quoi. C'est tellement génial. Moi, ça me vend du rêve, parfois même plus que la musique, parce que tu te dis putain, t'es transporté et t'as affaire à des génies, et complètement des génies. Et donc, merci pour cette petite histoire, Ziggy. Ouais.
Ben, il y en aura d'autres.
Il y en aura d'autres, bien.
Oh oui, Ziggy, j'ai hâte.
Les histoires du père Ziggy.
Alors, toi, du coup, Laetitia, t'as une chronique un peu spéciale à nous faire.
Eh ben, en parlant d'histoire, du coup, j'ai choisi de parler d'un reportage qu'Alex a évoqué lors de la précédente émission en passant le groupe Kitty. Il parlait du reportage Les Divas du Métal, l'envers du rêve. C'est un reportage qui date de 2019 et on peut le trouver sur la plateforme Prime. Hier, c'était la journée internationale des droits de la femme et l'une des chanteuses interrogées, Doro Pesch.
Ça sent bien le rétro quand même.
Eh ben oui, c'est rétro, Doro Pesch, elle n'est pas toute jeune. Elle explique en fait qu'en voyageant pour ses concerts, elle s'est rendue compte qu'avec son groupe de l'époque, Warlock, elle voyait bien que toutes les femmes n'avaient pas toutes les mêmes droits selon les pays et qu'elle-même, parfois, en fait, elle ne pouvait pas sortir de l'hôtel. Donc, ce reportage, évidemment, il parle de femmes, d'artistes vocales dans le métal, mais toutes les chanteuses qui parlent dans ce reportage, je trouve qu'elles ont un point commun, c'est qu'elles refusent qu'on les identifie uniquement sur leur genre. Et en fait, ça, j'adore parce qu'en fait, oui, ce sont des femmes, mais là, ce sont des artistes avant tout. Flor Johnson, la chanteuse de After Forever, Northward, Avamp, puis de Nightwish.
Rien que ça.
Rien que ça. Vous entendez sa voix incroyable. Eh bien, Flor Johnson, elle explique bien que son but, c'est pas de faire du métal féminin, mais c'est de faire, en fait, du métal, de la musique. Et ce que je retiens dans ce reportage, en fait, c'est que dans le métal, les artistes féminines, elles veulent et elles exigent de prouver leur valeur à hauteur de talent et pas à hauteur de décolleté. Et ce n'est finalement pas si simple. Charlotte Wessel, l'ex-chanteuse de D-Lane, elle va Donc Charlotte Wessel, qu'on entend là, elle va expliquer un peu en riant pendant le reportage qu'elle s'est retrouvée sur la une d'un magazine de rock français. J'ai pas réussi à identifier le magazine. En fait, elle était peinte avec d'autres chanteuses de métal en une espèce de reproduction de la scène très sexualisée. Et elle était toute nue devant un petit tas de cocaïne. Alors à ce moment-là, en fait, quand elle a vu cette une, il a fallu qu'elle compose entre une indignation d'être érigée en objet sexuel et le fait qu'on nous demande, à nous les femmes, de pas toujours tout mal prendre. C'est un petit peu complexe et c'est bien expliqué dans ce reportage. Il y a même Doro Pesch, à un moment donné, dont j'ai parlé un peu plus avant, qui raconte qu'une fois pendant un concert, son top, il s'est déchiré. Il a révélé ses seins à la foule. Et en fait, ça a été un instant et elle a retrouvé la photo de cet épisode un peu traumatique dans un poster de magazine aux États-Unis. Et on lui demandait de le dédicacer. Elle avait rien demandé à personne.
Hyper violent,
ouais. Et en fait, tout ça, ça m'a vachement touchée parce que ça parle finalement du fait qu'on objective énormément les femmes. Et l'ex-chanteuse d'Arch Enemy, Alissa Whitegirls.
Synapses between us. We pierce the sky with fists.
Putain, je l'adore, j'adore sa voix. En fait, pour cette chanteuse, c'est une gageure de ne pas être instrumentalisée comme un objet sexuel. Alors elle dit qu'elle a trop travaillé pour ça et qu'elle veut pas être réduite qu'au désir qu'elle pourrait susciter, car celui n'a rien à voir avec son talent. Alors, elle raconte même l'histoire de sa colocatrice, en fait, qui s'appelle Justine Etier, qui est une batteuse pour le groupe Blackguard, et qui est bien meilleure que bien des batteurs, mais à chaque fois qu'elle est en tournée, qu'elle arrive sur la salle de concert, ben, on va encore lui demander si elle est la fille du merch ou si elle est la copine d'un musicien. Et en fait, elle trouve ça hyper énervant d'être réduite à ce statut, en fait, de soit de meuf de merch, soit de copine. Et... J'aime bien ce reportage parce qu'il remet pas mal de choses dans l'ordre et elles sont pas toutes d'accord. Par exemple, Simone Simons d'Epica. Eh bien, elle assume un petit peu plus ce côté séducteur et elle le met même en parallèle avec le fait que c'est pour elle très important l'esthétisme et qu'elle souhaite créer un univers visuel parfait qui va s'accorder avec la perfection de sa musique. Du coup, ce reportage, il faut pas le regarder pour lire un pamphlet féministe irréfléchi. C'est vraiment un sujet de réflexion sur le fait qu'il n'y a pas de genre musical féminin, que ce soit dans la pop, le classique ou le métal. Chaque femme a sa place quand elle a du talent. Et la réduire à son genre, c'est insinuer qu'elle n'est là que parce qu'elle a plus bossé que quiconque, en fait. Donc aussi, je vais vous inviter à aller chercher ce reportage, faire votre propre avis, et je vous le conseille. Et merci Alex pour cette découverte. J'ai choisi Arch Enemy, One Last Time, pour finir cette chronique sur Radio G.
Fight on me.
c'était One Last Time d'Arch Enemy sur Radio G 101.5 et radio-g.fr. Alors?
Mais je connais bien, ouais. C'est un des premiers groupes que j'avais écouté, moins que cette chanteuse-là, mais de toute façon, Arch Enemy, c'est connu, reconnu et reconnu pour leur prestance scénique, pour leur niveau, vocal au niveau vocaux, plutôt vocal vocaux, niveau instrument, enfin c'est un gros classique quoi, c'est pointu, c'est chirurgical, c'est ouf.
Ouais, dans ce groupe moi je suis ultra fan de Michael Amott, le guitariste,
ouais,
qui est un de mes guitaristes préférés vraiment. Il fait des solos mais comme on l'entend là sur ce morceau, je connaissais pas du tout, donc merci.
Le
petit solo qui, on reconnaît vraiment sa patte.
Un côté presque épique, ce que je disais.
Ouais.
On se dire qu'on n'a jamais assez de temps pour tout écouter, dire, il faut que j'écoute, mais en même temps, il y a 15.
Et oui.
C'est comme un peu une palle, quoi, au niveau des livres.
Ouais, trop loin de moi, ça.
C'est toujours à dire, ok, j'ai écouté cet album, et là, tu te retournes, t'en as encore 15 autres, et il y en a deux autres, trois autres qui sortent le lendemain,
ouais.
Tu fais,
wow. Et puis c'est des groupes en plus qui changent de chanteur, de chanteuse, de guitariste. Donc t'as envie de voir un peu comment ça évolue et c'est hyper sympa, je trouve.
Bah, à voir du coup avec la prochaine chanteuse en tout cas.
Mais ouais,
c'est bien assuré quand même.
Parce que j'ai pas encore vu.
Une palette incroyable, enfin vraiment très variée.
D'accord.
Ça a l'air d'envoyer du lourd.
Okay. Mais à savoir quand même dans ces genres de moments, que ça soit tu vois après Tarja ou d'autres pour Nightwish etc. Quand tu Nightwish, on pourra en parler à un autre moment parce que c'est quand même assez intéressant. Elles sont passées par trois chanteuses, mais ils ont eu trois styles complètement différents.
Ah bah oui. Hein.
Et de se dire que quand tu passes après un chanteur ou une chanteuse, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quoi, tu vois, parce que pour ce qui a été très intelligent avec Queen. Quand ils ont repris il y a pas si longtemps
avec Adam Lambert,
c'était à Queen plus Adam Lambert, donc il y avait un côté où c'est pas Queen, c'est vraiment quelque chose, enfin ouais. C'est Queen mais plus un autre artiste, donc c'était hyper intéressant. Donc ouais, de toute façon on va écouter ce que ça donne avec la nouvelle chanteuse en tout cas, mais c'était super intéressant, merci.
Merci beaucoup Laetitia.
De rien.
Du coup, avant de commencer, j'ai une petite déclaration d'amour à l'Angleterre, cette île battue par le vent et la pluie, où les briques rouges des villes industrielles ont vu naître certaines des plus grandes révolutions musicales. Là où les guitares ont changé le monde, des Beatles, Rolling Stones par exemple, Queen, entre autres, en passant par toutes les scènes rock et alternatives qui continuent encore aujourd'hui d'enflammer les amplis. Mais l'Angleterre, c'est aussi tout un imaginaire, les romans de brume et de mystère, les détectives de Baker Street, les héros un peu cabossés de grandes histoires. C'est le cinéma aux atmosphères sombres, les pubs enfumés, les stades rugissants, les perfectos, les riffs saturés et cette manière unique de transformer la mélancolie en énergie rock'n'roll. Un pays où la culture se mélange sans cesse, la littérature, le cinéma, la musique et parfois même les légendes urbaine, comme celle de Birmingham et ses fameux Peaky Blinders. Bref, Angleterre, je t'aime, tu n'es pas parfait, mais je t'aime, et j'ai hâte encore de retourner sur le sol british. Et c'est justement, donc en parlant de Birmingham, c'est justement de cette ville au passé industriel puissant, forgé par les usines, la sueur et une certaine culture de la rébellion, que vient le groupe dont on parle maintenant. Waouh, je crois que ça fait depuis le début de l'émission que je cherche à placer ce groupe-là et j'y arrive enfin. Ouais. Direction l'Angleterre avec Last Hounds, un groupe venu de Birmingham et formé au début des années 2000. Depuis leur début, ces cinq musiciens se sont fait remarquer avec un son très énergique à la croisée du hardcore punk, du new metal et du punk moderne, un mélange explosif qui rappelle des groupes comme Gallows ou Turnstile.
Oh, génial ça.
Ouais. Le groupe se forge rapidement une réputation scénique solide au Royaume-Uni, notamment en partageant l'affiche avec des groupes comme NOFX ou Skinhead. Et en passant par de grands festivals européens, dont le Hellfest. Une anecdote racontée par le groupe lors d'un concert très matinal en festival, ils ont réussi à déclencher un gigantesque Wall of Death dans le public à seulement 11h du matin.
Alors que, oui.
Que c'est compliqué en général, il y a peu de monde et de motiver les gens, sachant que ça reste quand même un petit groupe.
Ouais.
Qui, j'espère, deviendra très grand. En tout cas, ils le sont déjà à mes yeux. Après plusieurs EP, ils sortent leur premier album Bird In en 2021, qui installe définitivement leur identité. Des riffs lourds, d'une énergie brute et des textes qui parlent souvent du quotidien, de la pression sociale et de la vie qui change. Plus récemment, le groupe a sorti l'EP Growing Pains, un disque très personnel qui parle du passage à l'adulte et de la résilience face aux coups durs de la vie. Amen. Et ils ont enchaîné avec un single intense intitulé World Disease, une chanson qui évoque le sentiment d'un monde qui part un peu en vrille, entre fatigue, doute et envie de tenir bon malgré tout. Et justement, c'est ce titre qu'on écoute maintenant sur l'antenne. Voici World Disease, extrait de l'EP, Growing Pains par Last Ounce. Et ben voilà, c'était juste The Last Hound, donc World Disease, si je me trompe pas. Growing Pain, Growing Pains de Last Hound. Bien punk comme il faut, une énergie de folie en live. Écoutez encore. Et puis bon, quand ça vient de Birmingham, gage de qualité quand même, je trouve.
Et puis bon, on les a vus cet été, enfin Wellfest cet été vu la température, c'était carrément fou en fait.
Mais je sais pas si c'était là en l'occurrence où ils ont eu leur Wall of Death dès le matin, mais ça bougeait.
C'est
la Warzone.
Ouais, ah, Warzone. Ouais. De toute façon.
Elle était pleine. Elle était pleine la Warzone. Mais il y avait de quoi. Mais on va terminer rapide alors du coup.
Mais on a même un petit peu le temps donc c'est cool. On va pouvoir lancer 2-3 infos avant de partir.
Ouais, je voulais juste rappeler à celles et ceux qui nous suivent sur Instagram qu'on a lancé un petit concours pour gagner des passes pour le Brelfest de Montreuil-Bellay, donc n'hésitez pas à participer. Le Brelfest, ça va être samedi à Montreuil-Bellay à 18h et ce serait chouette de les supporter. C'est une association qui monte tout à 100% et qui veut faire vivre le métal.
Ouais, tout petit festival à taille humaine en plus, sur une journée. Donc ouais. Même les vieux que nous sommes, on peut survivre une journée si on en fait 3, 4. Donc carrément c'est cool et puis c'est dans le coin, donc n'hésitez pas.
Ouais, et en parlant de micro-festival, t'as un truc à dire toi aussi?
Ouais, grosse nouvelle sur Angers. C'est vrai que j'en parle plus de son nom, donc je suis vraiment désolé, chanteur de la chaîne.
Ah, le chanteur de la chaîne, oui.
J'ai un petit trou de mémoire. Il fait une petite vidéo, je crois, sur Insta en disant que le métal ne va pas partout, donc c'est à eux de faire venir le métal. Et quelle bonne idée, nous qui râlons sur le fait que Angers manque de concerts de métal, sauf Merci encore une fois, grâce à des salles comme le T-Rock ou encore le Jokers et parfois le Shabada quand même. On va pas non plus les oublier, mais que ça manque un peu de, quand même, de métal. On est d'accord, Ziggy?
Bah oui, il y a l'Omega Sound, mais on en veut plus.
Et on veut aussi que le public en juin et en juin se bouge un petit peu, parce que des fois, on a eu des bonnes affiches où ça manque de public. Et là, tu dis, mais merde, qu'est-ce que vous attendez pour faire bouger? Si vous voulez plus de groupes, il faut aussi montrer qu'on est demandeurs et demandeuses. Donc, c'est pour ça que la Wake the Stage, qui est une nouvelle asso,
Angers,
qui est tenue par
Corentin Charbonnier, entre autres.
Le grand Corentin Charbonnier qui vend du rêve encore, merci beaucoup. Et là, une affiche, mais de dingue, parce que c'est vrai que on en disait ça la dernière fois, les concerts n'existent plus avec une première partie et un groupe, c'est souvent des micro-festivals, si on peut dire ça. Et là, il y a le 28 mars 2026, à la MJC de Haute-Saint-Aubin, à Angers, donc sur Paris, les gens sont des plus grandes salles, etc. Nous, on a la chance d'être dans un truc un peu plus intimiste en plus.
Et très bonne salle en plus.
Très bonne salle en plus, apparemment.
Ouais, le son, il est vraiment bon.
Une billetterie qui est quand même à 20 euros pour 4 putains de concerts, de groupes, avec Head Shake, Spleen, Space of Variation et un des plus grands groupes métal français,
gros coup de cœur,
de ces dernières années. HN.
Ouais.
Ouais, qui passe sur Angers. Donc, moi, je pense qu'on est vraiment très, très excités et on y sera. C'est l'heure,
c'est ça? C'est l'heure.
Et donc, du coup, Ziggy, je te laisse
lancer
la dernière chanson, du coup.
Ouais, c'est moi qui l'ai choisi. Du coup, j'ai fait au hasard. Ouais. Chimera de HN.
Eh ben, c'est un très bon choix.
Ouais.
Bonne soirée à tous.
Ouais.
Bonne écoute. Soirée.
Gonna press it all down. Gonna just not feel so I can live. And it won't let you.